L'année qui débute est marquée par deux rendez-vous électoraux, la présidentielle et les législatives. On reçoit la députée PS Marie-Anne Chapdelaine pour évoquer les sujets liés à ces élections et pour bien sûr traiter d'actualité. Marie-Anne Chapdelaine, bonjour.
Bonjour.
Alors oui, grosse actualité, des sondages catastrophiques, Macron, Hamon ou encore le chômage qui augmente, ça s'annonce quand même compliqué pour François Hollande pour sa réélection.
Vous l'avez dit, ça s'annonce compliqué. Je pense qu'il ne faut pas déprimer pour autant. Je pense que François Hollande a un bon bilan. Alors, c'est pas le bilan merveilleux, mais je pense qu'on vit une époque compliquée, donc ça explique cela. La France a vécu des moments tragiques, donc c'est un bon bilan. Je pense que le président aura peut-être à faire son mea culpa sur une ou deux choses. Moi, je pense à l'indignité nationale. Mais pour le reste, je pense que quand même, c'est un bon bilan. Donc, et puis, il ne faut pas préjuger d'avenir. Et en même temps, il faut toujours continuer à travailler parce que les élections ne sont pas encore là.
C'est vrai, sauf que des sondages tombent. Hein, aujourd'hui, un sondage, 80% des Français pensent que Hollande doit renoncer à se représenter. Donc, même si vous, en tant que député, on comprend, vous défendez ce bilan, n'empêche que 80% des Français, ça fait mal.
Vous savez, 80% des Français, mais enfin je me rappelle de quand Chirac est devenu président de la République, il partait pas non plus avec un fort pourcentage.
Alors, ça veut dire que vous espérez qu'il y ait un deuxième tour François Hollande, Marine Le Pen?
Non, pas du tout, parce que rappelez-vous, Chirac, c'était avant qu'il ne soit même candidat pareil. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut regarder la situation de la France en 2012 et la situation de la France maintenant, et regarder les mesures qui ont été votées, notamment en faveur des plus précaires. Et je pense que là-dessus, ça fait la différence entre 5 ans de Hollande et 10 ans de sarkozisme.
Vous avez été plutôt toujours... vous avez toujours voté les propositions du gouvernement. Vous n'avez jamais été tenté pendant cette mandature à la fronde?
Vous savez, la fronde, elle peut s'exprimer de différentes manières. Moi, quand dans un projet de loi, quelque chose ne me plaisait pas, il y avait deux solutions. Soit j'hurlais au loup sur tous les plateaux de télé, soit je retroussais mes manches et j'essayais d'améliorer le texte en proposant des amendements, en étant présente dans l'hémicycle, puisque vous le savez, je suis ce qu'on appelle au mandat unique. J'ai choisi la deuxième solution, j'ai choisi le travail, c'est-à-dire j'ai choisi d'être là pour défendre pied à pied les amendements qui pouvaient changer le texte. Alors la politique, c'est aussi à des moments donnés l'art du compromis. Il y a quelquefois, il faut accepter le compromis. Il est des fois très bien, il est des fois un peu moins bien. Mais je pense que ce qu'il faut, c'est travailler.
La loi El Khomri, Macron, vous n'avez jamais été tenté à ces moments-là de fronder?
Sur la loi El Khomri, oui. La première version, je vous l'avais dit, je crois ici, il était hors de question. Parce que ça, je pense que ça n'était pas une loi que, en fonction de mes valeurs, je pouvais défendre. Sur la deuxième version, moi, j'ai essayé de proposer des amendements. Il y en a certains qui ont réussi. Et je pense qu'il y a des mesures là-dessus, comme le compte pénibilité, le compte personnel d'activité, qui peuvent être des vrais droits nouveaux pour les travailleurs. Et puis, il y a des fois où on se serait dit, ça, on s'en serait bien passé, mais le compromis était acceptable.
Beaucoup de commentateurs politiques disent qu'effectivement, il y a eu quelques réformes, mais c'était des mini-réformes. Il aurait fallu un peu plus réformer, peut-être faire la loi El Khomri dès le début, peut-être alléger autrement les charges des entreprises dès le début. C'était un peu le contraire.
Alors, sur la loi El Khomri, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il fallait pas s'y prendre comme ça. Il fallait faire la grande conférence de consensus, un peu ce que Christiane Taubira avait fait sur justice du 21e siècle, un peu sur l'ANI, en disant on met tout le monde autour de la table. Maintenant, c'est ce que je vous ai dit, c'est arrivé. Il fallait retrousser ses manches. Après, sur d'autres lois, effectivement, par exemple, moi, je regrette qu'on n'ait pas fait l'adoption pour les couples non mariés. Quel qu'il soit hétéro ou homosexuel, mais bon, voilà, il y a eu d'autres choses qui ont été faites dans d'autres, et donc du coup, il faut, voir le verre à moitié plein et pas toujours à moitié vide.
Alors, quand vous le prenez à moitié plein, qu'est-ce que vous voyez de ce côté-là, du moitié plein? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été positif pendant cette mandature, ce gouvernement?
Alors, je dirais plusieurs choses. La première, c'est par rapport envers les plus précaires. La revalorisation de l'allocation de rentrée scolaire, de l'allocation d'adultes handicapés. Marisol Touraine s'est quand même attaquée à la sécurité sociale. On aura moins de déficit que prévu. Je crois que c'est le régime des retraites du régime général qui est revenu à l'équilibre. Les retraites pourront être payées, c'est quand même très important. Sur les sujets de société, on a parlé de la réforme de la protection de l'enfance, il y a eu « Je passe sur le mariage pour tous », il y a eu aussi, même si la loi, là, il faut encore qu'elle sorte du Sénat, sur la place des beaux-parents. Donc, et puis par rapport aux entreprises, je pense que tout le monde a salué le CICE en disant qu'il fallait remettre de l'argent dans les caisses des entreprises. Alors après, j'entends sur le CICE, c'est bien, mais il y a les effets de bord. Certaines grosses entreprises en ont, alors qu'elles ne devraient pas. Donc il faut qu'on revoie les effets de bord, voir s'il faut les mettre en descendre les charges. Donc vous voyez que sur différents domaines, je viens d'en prendre trois, le domaine de la solidarité, de l'entreprise et le domaine sociétal, les avancées, elles sont là, elles sont réelles. Maintenant, oui, si vous me demandez si on a tout fait, non, et s'il reste encore des choses à faire, mais c'est pour ça que il y a encore besoin de temps.
Alors vous parliez de la sécurité sociale, vous dites ça va mieux, en même temps d'un côté on a imposé donc les mutuelles obligatoires aux salariés par les entreprises. Certains à gauche, la gauche de la gauche disent que c'est un renoncement de la sécurité sociale.
C'est pas du tout un renoncement. Vous savez qu'il y a des gens qui n'avaient pas du tout de mutuelle. Il y avait des gens qui travaillaient et qui ne pouvaient pas avoir une mutuelle. Donc ça, c'était
mais
anormal.
C'est pas une porte ouverte pour la suite. Par exemple, on imagine une alternance à droite où là, justement, on dit, bah voilà, on va laisser porter encore plus les dépenses de sécurité sociale sur les mutuelles.
Moi, je pense pas.
Et donc
pas.
Les particuliers, au final.
Non, parce que moi, je pense pas, parce que je pense qu'il faut tenir les deux bouts. Je veux dire, on n'a pas plus déremboursés. On n'a pas déremboursés. On a juste dit.
Un peu,
que
certains médicaments, quand même.
Non, il y a certains médicaments. Parce qu'ils étaient inefficaces. Et puis, il y a quand même des traitements qui ont été pris. Je pense à l'hépatite C. Je pense aussi à quelque chose qui est très important par rapport à l'IVG. Ça, il y a eu de vraies avancées. On a fait la pilule, ce qu'on appelle, excusez-moi le raccourci, la pilule du lendemain. Eh bien, quand on est une femme ou une jeune fille, c'est important. Savoir que ça peut exister. Donc, je pense pas. Il n'y a eu aucun déremboursement. On a juste dit que tout le monde en France devait avoir une mutuelle. C'est quand même de la justice sociale, ça.
Alors, vous disiez, il y a le verre à moitié plein, il y a le verre à moitié vide ou presque complètement vide. C'est l'emploi. Là, il est vide quand même. Il s'est bien vidé, là même.
Alors, l'emploi.
Il y avait des promesses.
Oui, il y avait des promesses et qui ont été en partie tenues parce que c'est vrai qu'il y a eu de très mauvais chiffres au mois d'août, mais ça, on va pas occulter les bons chiffres de juin, de mai, de juin et de juillet. Donc à un moment donné, il faudra voir le bilan et il faudra voir surtout si on a créé de l'emploi et si on a créé de l'emploi non tertiaire, ce qui est le cas. Le solde est toujours positif, donc c'est vrai. Et c'est pour ça que quand je dis, je veux jamais dire que le verre il est totalement plein parce que je pense à ceux qui n'ont pas d'emploi et qui pour qui, pour eux, c'est demain. De chômage, ou c'est aujourd'hui. Donc il faut avoir conscience de tous les efforts qui nous restent encore à parcourir, mais c'est pas en dénigrant le passé qu'on avancera.
Alors vous parliez, vous avez lancé presque la perche de Christiane Taubira tout à l'heure. Christiane Taubira qui avait été un peu évincée quand même du gouvernement, ça a été quand même assez dur pour elle, il faut le dire, hein, pour une personne. Là, ça y est, François Hollande fait copain-copine avec Christiane Taubira ces derniers jours.
Alors écoutez, moi je ne sais pas s'il fait copain-copine, tout ce que je sais c'est que Christiane Taubira a elle-même démissionné, elle n'a pas été poussée dehors, elle n'a pas été poussée à la démission, c'est elle qui est partie, ce qu'il faut d'ailleurs respecter.
Et vous pensez que c'est un risque? Parce que je crois que certains avaient dit que c'était à cause de Christiane Taubira que la gauche avait perdu les élections avec Jospin.
Moi, je crois pas. Non, il faut pas. Il faut être. Je pense que pour gagner les élections, il faut des hommes et des femmes sincères, de confiance, des gens qui travaillent et qui proposent un projet, qui ont des valeurs. Je pense qu'on peut pas remettre la défaut sur l'un, sur l'autre. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut faire. En tout cas, c'est pas ma conception de la politique.
Alors, vous voyez bien, Marianne Chapdelaine, vous le savez. Enfin, nous, on vous connaît. On sait que vous êtes sur le terrain. Vous travaillez. N'empêche que ça y est, c'est un mandat de 5 ans. C'est 4 ans en fait, parce que ça fait déjà presque quelques mois qu'on parle des élections. Il reste encore 9 mois, ça y est.
Alors vous savez, on va siéger jusqu'à février. Je pense qu'il.
Mais là, le débat politique, il tourne quand même autour des primaires à la droite, ensuite primaires à gauche. Est-ce qu'ils se représentent, est-ce qu'ils se représentent pas, non?
Vous savez, moi là, je suis à la commission des lois. Je travaille sur un projet qui s'appelle Égalité réelle en Outre-mer. Quand on sait qu'il y a des inégalités criantes entre la métropole et les Outre-mer, je pense qu'on peut pas se dire qu'on travaille pas. Alors que certains aillent sur les plateaux de télé, qu'on en parle, bien évidemment, c'est normal. Mais en même temps, il faut pas oublier tout le travail qui se fait à côté. Donc j'ai envie de vous dire que oui, on en parle, mais ça doit pas uniquement se concentrer sur ça. Il faut finir. Moi, j'étais sur un très beau projet de loi qui s'appelait Égalité et Citoyenneté, qui a été voté à l'unanimité de la gauche. Donc vous voyez, eh ben ce projet-là, il a été détricoté au Sénat, il va revenir à l'Assemblée, ben ça va nous faire du travail. Donc parlons, si vous voulez, des élections, c'est normal. Mais n'oublions pas que pendant ce temps-là, on doit continuer à travailler.
D'accord. Eh bien, on parlera peut-être de la loi Outre-mer là tout à l'heure, puisque vous étiez parti en Guyane, hein, c'est ça. Donc, j'imagine que c'est un peu la suite des choses.
Alors,
on peut en parler maintenant si vous voulez, mais on va parler quand même de peut-être des législatives aussi. Ah, il y a les élections, vous vous représentez quand même, non?
Vous savez, moi, j'appartiens à une formation politique où on est déjà désigné par ses pairs, par ses militants. Donc, je leur dois d'abord à eux savoir si je me représente. Après, il faut aussi respecter un timing. Je vous ai dit, pour l'instant, il s'agit de travailler, de continuer à travailler, et puis viendra le moment des annonces.
Alors, attendez, Marine Chapdelaine. Vous représentez ou pas aux législatives? Vous êtes élu PS de la première circonscription d'Ille-et-Vilaine, donc du côté Rennes, Rennes Sud. Hein. On a vu dernièrement une lettre envoyée aux militants, une lettre signée de votre main et de votre suppléant actuel, donc Philippe Bonin, maire de Chartres-de-Bretagne, où vous dites en gros que cette mandature a mis à jour entre vous quelques divergences et que, ça y est, c'est un peu terminé entre vous. Donc, dans la presse, Monsieur Bonin dit qu'il va peut-être se représenter, peut-être qu'on imagine il va se présenter sur la quatrième circonscription, donc c'est-à-dire celle de Redon-Guichin. Et vous alors, dans tout ça?
Vous savez, je pense que vous avez raison. On a averti avec Philippe Bonin, avec qui l'amitié entre nous est toujours là, de nos divergences. Je vais paraphraser les couples. Nous sommes dans une séparation à l'amiable. C'est vrai que les divergences sont là. Ça n'empêche pas que le respect pour les engagements des uns et des autres. Et nous avons été élus jusqu'en juin 2017. Donc c'est ce que dit la lettre. Jusqu'en juin 2017, les électeurs pourront compter sur nous. Après, chacun suivra sa voie. Mais je rassure tout le monde, il y a toujours ce même sens des valeurs qui nous lie et ce même respect. Quant à savoir, moi, en ce qui me concerne, je vous ai dit, je pense que le temps des annonces n'est pas venu. Il y a encore le temps du travail. Je suis députée jusqu'en juin 2017 et c'est vrai, il y aura des désignations avant. Donc
Il y aura la campagne, on ne peut pas le nier.
Bien évidemment, mais je pense que c'est encore un peu tôt. Je vous ai dit, pour l'instant, mon horizon de député, c'est la semaine prochaine, la loi égalité réelle en Outre-mer. Et d'autant plus que, avec ma collègue de Guyane, on a pu faire passer un amendement qui nous tenait à cœur sur le conseil coutumier de Guyane. Eh bien, j'aurai à cœur d'être là pour le défendre dans l'hémicycle, comme je l'ai fait en commission.
Alors, dans cette lettre que vous avez signée avec Philippe Bonin, donc vous avez envoyée à vos amis du Parti Socialiste, il y a une petite phrase, nous ne publierons pas de photos people de nous deux, grand sourire, main sur l'épaule. Ça me fait penser à la petite phrase de Buisson qui vient de dire que, avec dans son livre, que les deux derniers présidents, donc Hollande et Sarkozy, sont des présidents selfie.
C'était un trait d'humour, mais ça voulait bien dire qu'entre nous, il y avait du respect et de l'estime et qu'on n'avait pas besoin de ça pour dire que le travail qu'on avait fait ensemble, et notamment par rapport à PSA, chacun de sa place, quand on s'était battu, notamment, je pense à ce gros dossier-là, mais je peux penser à d'autres petits dossiers, eh bien, nous l'avions fait dans le respect de chacun et qu'on continuera à le faire. Maintenant, oui, il y a des divergences, eh bien, il fallait le dire à nos sympathisants.
Alors je disais Philippe Bonin, mais on aura l'occasion sans doute d'en parler avec lui. Donc il y a une place à prendre du côté de la quatrième circonscription, puisque Jean-René Marsac a lui annoncé il y a quelques temps déjà qu'il se représenterait pas et qu'il arrêterait justement de s'investir en tant qu'élu, mais pas forcément en tant qu'homme politique dans le sens noble du terme. On va revenir, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler sur notre antenne, en tout cas de votre, est-ce que vous allez vous présenter ou pas, de votre candidature, on verra dans les prochains mois. J'espère que vous nous ferez cette exclusivité. Qu'est-ce que vous avez pensé aussi, alors on va revenir un petit peu au national, on reviendra un petit peu au local après, vous avez pensé quoi des polémiques de l'été dernier autour du burkini par exemple?
Oh là là, écoutez, moi je suis consternée que...
Parce qu'en tant que femme politique, vous avez souvent dit des choses, même quand vous arrivez à l'Assemblée nationale, c'est aussi très dur d'être une femme.
C'est très dur d'être une femme, mais ce qu'il y a eu autour du burkini, c'est complètement aberrant. Je veux dire, on s'est focalisé sur rien du tout. Est-ce que moi, ça me dérange qu'une personne se baigne avec un burkini, se baigne toute nue, se baigne avec une combinaison, se baigne en jean, Ça, c'est pas ça le problème. Le problème à l'heure actuelle, c'est que il faut pas que la société elle se fracture. Il faut qu'on retrouve le sens de l'état de droit, le sens de la République, liberté, égalité, fraternité. Et quelque part, on a la laïcité qui nous permet de vivre ça ensemble. Le burkini, c'était vraiment pour faire parler. Je pense que les personnes qui ont fait ça, elles sont allées chercher les voies à l'extrême. Et ça me dérange fortement. Il ne faut pas fracturer la société française parce qu'on gagne ensemble et on gagnera la bataille contre le terrorisme ensemble.
Vous pensez que justement, enfin, avec cette bataille contre le terrorisme, avec ces élections qui vont arriver, qu'il y a une espèce de recentrage du débat chaque fois sur les idées un petit peu de l'extrême droite, c'est-à-dire que c'est l'extrême droite qui donne le tempo?
Vous savez, par moment, on a l'impression. Je ne sais pas si c'est l'extrême droite qui donne le tempo, mais par moment, on a l'impression, et moi, ça me dérange, parce que quand on parle du Burkini, on parle de ce qui va diviser, et puis je vous dis, qu'est-ce que ça peut nous faire à nous que telle ou telle personne, dès lors que les autres peuvent se baigner comme elles veulent, et plutôt en maillot de bain, parce que c'est souvent la coutume. Je veux dire, à un moment donné, on oublie aussi de parler de ce qui se passe bien, y compris dans des endroits, dans des quartiers, de ce qui fait le vivre ensemble et de ce qui fait qu'on va résister ensemble au terrorisme. Et c'est ça qui est important, parce que, vous savez, on pourra prendre toutes les mesures qu'on veut. Si c'est pas au quotidien et tous ensemble qu'on luttera contre le terrorisme, on n'y arrivera pas.
Mais est-ce qu'on doit, parce que c'est vrai qu'on a vu un été quand même assez meurtrier, enfin on a vu une année compliquée, même 2015, est-ce qu'on doit se résoudre à vivre dans une société qui a peur comme ça, qui amène la peur, parce que la peur engendre la haine?
Oui, mais je pense qu'il faut, avoir deux choses. Petit un, il faut ne pas être crédule ou naïf. Le risque terroriste est là. On doit prendre des mesures, donc il faut les prendre. Il faut accepter que sur une manifestation, on nous demande d'être plus vigilant. Mais surtout, il faut continuer à vivre. Il faut continuer à faire un maximum.
Et c'est quoi être plus vigilant?
Plus vigilant,
fouiller un enfant, par exemple, qui a 4 ans, c'est normal?
Non. Par contre, très honnêtement, être plus vigilant, c'est peut-être... Moi, je suis allée à des manifestations, on m'a dit « Madame, vous pouvez ouvrir votre sac ». J'ai ouvert mon sac, on m'a laissé passer. C'est peut-être aussi prendre des précautions, mettre des barrières là où on n'en mettait pas. Et ben ça, c'est. Et puis, si un jour, il y a vraiment un gros risque, c'est-à-dire une alerte, d'avoir le courage de faire comme à Lille et de dire « on ne fait pas ».
Mais par exemple,
mais à côté de ça, faut continuer. Si vous saviez le nombre de manifestations où je suis allée, où effectivement, au début, on m'a demandé d'ouvrir mon sac, je l'ai ouvert. Après, c'était mais comme d'habitude, quoi.
Mais par exemple, on voit que le ministère de la Culture augmente son budget, mais d'un autre côté, il y a énormément d'argent qui part justement dans la sécurisation des... Est-ce que c'est, je veux dire, c'est de l'argent qu'on aurait pu mettre dans l'éducation avant et qu'on met aujourd'hui dans un état presque policier?
Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec l'état policier, c'est ce que je vous ai dit. Donc, pour moi, l'éducation, moi, je suis fière d'avoir voté un budget où l'éducation nationale est le premier budget de l'État. Il faut quand même le savoir que ça ne s'était pas fait depuis X années. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Par contre, il ne faut pas minimiser le risque, mais il faut faire confiance aux organisateurs et aux élus locaux qui, en lien avec le préfet, vont, sur telle ou telle manifestation, prendre des mesures. Si les mesures, c'est de passer sous un portique, de montrer son sac, de faire la queue, on les prend. Voilà, c'est rien à côté du risque qui pourrait arriver. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est continuer à vivre. Puis vous savez... moi j'habite des quartiers très dynamiques à Rennes, ça n'a pas empêché les gens de se retrouver pour des pique-niques improvisés et tout, mais il faut que la vie continue.
Vous en avez même organisé un, je crois.
Oui, ouais. Je peux vous dire que c'était très sympa et qu'il n'y avait pas de foule de mesures de sécurité. Mais il y en avait quand même un
donc
peu.
Donc vous êtes élue à Rennes aussi. On va revenir à un débat plutôt local, Marianne Chapdelaine. La rocade à 90, tout ça pour ça?
Bah écoutez, non, moi j'ai envie de dire que pour une fois, je suis contente. Quelqu'un a osé dire on va essayer 70 pour le bien de tout le monde, pour l'environnement, pour notre santé, et de voir que ça n'était pas une bonne mesure de dire on remet à 90. Et bien moi je dis bravo d'avoir eu le courage politique de dire on fait une expérimentation, ça marche pas, on revient à la situation antérieure, il faut avoir du courage politique, donc c'est bien.
Jean-René Marsac, justement, disait, donc un autre député PS, disait, s'est positionné sur Calais, sur la jungle qui va être démantelée d'après François Hollande. Il dit qu'un pays de 65 millions d'habitants peut sans problème accueillir donc 7000 réfugiés. C'est votre état d'esprit aussi?
Oui, vous le savez. Et il a tout à fait raison. Et vous savez, tout le monde connaît mes options là-dessus. Bien sûr qu'on peut accueillir. Et puis, de toute façon, il y a quelque chose qu'il faut savoir. C'est que la France, elle a ratifié la Convention de Genève. 80% des personnes qui sont à Calais peuvent demander l'asile. Ce sont 80% qui pourraient être demandeurs d'asile. Donc, à ce titre-là, ils ont le droit à l'assistance de la France.
Mais c'est quoi cette légende urbaine là? Les gens ont peur des migrants. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
Vous savez, les gens, ils ont peur de l'étranger. Et puis, quand la situation est relativement compliquée, les gens ont l'impression d'être précarisés, on s'en prend toujours à plus précaire que soi. Et en bas de l'échelle, vous avez les migrants.
Vous parliez de verre à moitié plein, à moitié vide. Ça, c'est le verre du côté à moitié vide. C'est l'Europe, quoi.
Non, moi je plaide pour qu'on ait un asile européen et je plaide. Non,
mais ça marche pas l'Europe là en ce moment.
Mais si ça marche, parce que s'il faut lui donner du contenu, mais si un jour on essaie, par exemple, voyez sur la politique d'asile, plutôt que chaque pays trouve ses solutions. Si on disait il y a un asile européen, et bien que la personne, qu'elle soit en Allemagne, en France, en Italie, elle a le droit à l'asile, elle a le droit à un hébergement, et qu'après les pays se répartissent les demandeurs d'asile en fonction de leur demande à eux, souvent de la langue qu'ils parlent, et en fonction aussi des moyens qu'ont les pays, tous les pays n'ont pas les mêmes moyens, et bien un peu de solidarité, je pense qu'on y arriverait. Et surtout, il faut redonner à l'Europe ce qu'elle a de plus noble, c'est-à-dire c'est l'Europe sociale, c'est aussi une Europe qui protège, parce que quelquefois on l'oublie trop, mais c'est aussi une Europe qui nous donne des droits. Et regardez, depuis qu'on a fait l'Europe, quand même, elle est née quand même d'un conflit. On n'a plus de conflit avec l'Allemagne.
Non, on est d'accord là-dessus. Mais est-ce que, par exemple, il ne devrait pas avoir un couple, ou en tout cas, ou peut-être trois ou quatre pays, les pays peut-être les plus riches d'Europe, qui seraient un peu leaders et qui marqueraient, qui iraient de l'avant. Là, à 27, c'est compliqué d'avancer.
C'est vrai que c'est compliqué, mais il faut être ambitieux. Je veux dire, cette Europe, on l'a quelque part, on l'a voulu, elle est là en termes géographiques. Moi, je crois
oui, mais toute construction humaine a un début, a une fin. Peut-être que là, en ce moment, on est peut-être pas dans la fin, mais on est dans une réinvention de l'Europe.
Moi, je pense que si vous voulez, on est dans un moment où c'est pas particulièrement réjouissant, mais c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Donc, je dirais qu'il nous faut encore plus de courage pour aller de l'avant et entraîner avec nous les autres. Et effectivement, vous avez raison, il faut des pays qui parlent haut et fort et en bien, et je crois que c'est ce que fait notre président pour vous.
Et vous pensez qu'il a la carrure d'un Européen ?
Je pense que oui.
Ouais.
Bah oui, je pense que c'est un Européen convaincu et que c'est ce qu'il nous faut.
D'accord. Bah écoutez, en tout cas, on aura bien compris. Alors on va parler de cette loi égalité en Outre-mer. Vous avez été en Guyane, on a suivi un petit peu vos péripéties, en tout cas vous en avez parlé régulièrement. Vous étiez parti pour faire donc un rapport parlementaire sur le suicide très élevé, plus élevé que la moyenne des natifs guyanais, c'est-à-dire français mais natifs de Guyane. Vous avez accouché quelque part de cette loi avec d'autres ?
Alors, cette loi, elle est pas née pour ça. Cette loi, elle est née pour faire le rattrapage entre ce qui est la vie ici et la vie dans les Outre-mer. Mais j'ai profité avec mes collègues guyanais, hein, bien sûr, pour pouvoir présenter un ou deux amendements qui sont issus du rapport qu'on a fait sur la possible disparition des Amérindiens, puisqu'ils ont un taux de suicide très important et qu'on risque de voir un peuple premier disparaître, comme on dit. Donc moi, j'ai utilisé ce véhicule législatif avec ma collègue Chantal Berthelot de Guyane pour présenter notamment l'amendement qui va créer le Grand Conseil coutumier de Guyane, donc avec des Amérindiens et des Bushinengués qui vont pouvoir participer au débat politique et avoir leur parole reconnue, entendue par les collectivités là-bas et la France pour les politiques qui relèvent des Amérindiens.
Ça passe entre autres, cette loi, par égalité hommes-femmes, lutte contre l'obésité, l'illettrisme, c'est
voilà,
ça.
Voilà, donc il y a par contre un volet très social qui concerne toutes les Outre-mer pour avoir un rattrapage, parce qu'il y a des inégalités. C'est là-bas, à situation égale avec la métropole, vous avez le droit à certaines aides, mais en Outre-mer, vous n'y avez pas le droit. Il y a des dispositifs qui ne s'appliquent pas, alors qu'on sait qu'ils marchent en métropole. Donc je pense que c'est une politique là de rattrapage.
Il y a aussi, à l'initiative de Chantal Berthelot, hein, qui est élue de Guyane, une proposition de lutte contre l'orpaillage illégal. Ça fait mal en Guyane.
Oh oui, ça fait mal. Et surtout, c'est pas qu'en Guyane que ça fait mal. Ça détruit la forêt amazonienne. Ça détruit donc le poumon de la planète. Si vous saviez les ravages que ça fait à la fois sur les populations amérindiennes, mais c'est pour tout le monde. Si on détruit la forêt amérindienne, on détruit le poumon de la terre. Donc vous imaginez le réchauffement climatique, c'est à la vitesse grand V. Donc l'orpaillage, il faut y lutter le plus farouchement possible, d'où les amendements de ma collègue que j'ai largement soutenus.
Marianne Chapdelaine, merci. On aura l'occasion de se revoir, hein, comme tous les deux mois à peu près, pour faire le point comme ça sur l'actualité. Là, c'était assez national pour une fois. Et puis, si vous vous représentez, on aura sans doute l'occasion de faire des débats, parce que vous savez qu'on va rentrer en campagne après et que là on sera obligé de donner la parole à tout le monde, et en tout cas donc il y aura des débats assez intéressants. Pour terminer, beaucoup à gauche disent qu'il faut quand même aller voter aux primaires de la droite pour faire barrage à Nicolas Sarkozy, et alors je vais pas vous demander si vous irez voter, mais en tout cas François Hollande est votre candidat. même si c'est pas encore prononcé.
Pour l'instant, vous savez, nous on n'a pas clos. Tous les candidats ne se sont pas déclarés, mais oui, je pense que François Hollande est un des candidats légitimes et le candidat légitime.
En tout cas, merci beaucoup d'être venu en studio, Marianne Chapdelaine. À très vite sur l'antenne de Radio Laser.